France Culture, le grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, l'emblématique jardin Majorelle, fief dit Saint-Laurent et Pierre Berger, autant connu pour ses espèces végétales que pour son bleu éclatant, fête en 2024 ses 100 ans. L'occasion pour nous d'une visite, nous nous trouvons au cœur de Marrakech, à quelques minutes à pied de la Médina, et comme toujours, depuis son ouverture, des milliers de gens viennent chaque jour s'y promener.
Bonjour France Culture, bienvenue au Jardin Majorelle à Marrakech. Je suis Alexis Sornin, directeur du musée Yves Saint-Laurent Marrakech et du musée Pierre Berger des Arts Berbères au sein du Jardin Majorelle depuis 3 ans et demi.
Et nous sommes ici aujourd'hui parce que le jardin fête ses 100 ans.
Alors, il faut être précis, en fait c'est 1914, qui est une date... Pardon, 1924, ça commence bien. 1924, qui est une date... symbolique importante pour nous, puisque c'est la date d'un acte notarié qui rend Jacques Majorelle propriétaire des lieux dans lesquels nous nous trouvons ce matin. Et donc, on célèbre les 100 ans du lieu plus que de l'ouverture au public du Jardin Majorelle, qui, lui, est ouvert au public depuis 1947.
Et on voit, depuis qu'on est arrivé, le succès de ce jardin, en fait. À Marrakech, les gens viennent tous les touristes, ou les Français, ou les locaux, j'imagine, viennent visiter ce lieu.
Alors, c'est un lieu qui est très fréquenté par des visiteurs locaux, bien sûr, nationaux en plus grand nombre, et surtout internationaux. Plus d'un million par an de visiteurs sont reçus ici, ou est reçus au Jardin Majorelle, et qui viennent ici, j'espère, contempler et regarder la nature, observer la nature.
Pour la nature, mais pour aussi, j'imagine, le nom d'Yves Saint-Laurent, qui reste encore un porte-drapeau important, ou que ce soit dans le monde.
Alors, je pense qu'en effet, les gens viennent pour plusieurs raisons, observer la nature, peut-être aussi sur les lieux de mémoire d'un couple français au Maroc, Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, qui sont arrivés ici en 66, et qui, pour ainsi dire, n'en sont jamais repartis, ou sont toujours revenus de 66 jusqu'à leur mort réciproque en 2008 et en 2017. Mais aussi Jacques Majorelle, qui donc a acheté cette propriété il y a maintenant 100 ans, qui a imaginé un jardin comme un décor pour un peintre, peut-être un des derniers décors orientalistes du XXe siècle en Afrique du Nord, pour une personne qui venait y travailler, c'est-à-dire y dessiner et y peindre. D'ailleurs, son atelier est préservé dans le jardin lui-même. Ensuite, un paysagiste, Madison Cox, qui est aussi le président de la fondation Jardin Majorelle, qui, lui, a œuvré à une adaptation du jardin aux contraintes climatiques, aux nécessités esthétiques du lieu. Un exemple très concret, c'est devant nous, un carré des cactus se présente, avec de nombreux cactus, la plupart originaires d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, mais une des choses qu'a voulu changer Madison Cox, c'est d'enlever le gazon, cher à Yves Saint-Laurent, né en Algérie, et pour qui un jardin sans gazon, sans herbe, n'était pas un jardin. Or, on est dans un contexte climatique pour le moins aride, et les années à venir s'annoncent plutôt difficiles de ce point de vue-là. Il était un non-sens que de mettre des cactus sur du gazon pour commencer, qui plus est à Marrakech.
Oui, ce que vous nous dites, en fait, c'est que c'est aussi un jardin vivant, c'est-à-dire en plus d'être un lieu de mémoire et un musée, le jardin vit au gré des évolutions de son époque.
Alors, c'est intéressant que vous étudiez le mot de vivant, parce que moi, je m'occupe plutôt des collections mortes, des collections muséales, et mon collègue Marc Janson, ancien directeur botaniste, parlait souvent des collections vivantes du jardin, dont il a fait l'inventaire, comme on fait l'inventaire des collections dans les musées. Et donc, c'est vraiment une collection de plantes, une collection de sujets botaniques que de n'avoir ce jardin.
Vous nous faites visiter ce jardin ?
Allons-y.
Vous parliez de la sécheresse. C'est vrai que quand on pense à Marrakech, on pense au désert. On ne pense pas forcément à cette fraîcheur. Là, on est en effet sous les bambous, à cette verdure. On est comme dans une oasis.
À propos d'eau, donc un stress hydrique est très fort, bien sûr, à Marrakech. Mais disons, on ne dépend pas des ressources de la ville de Marrakech pour l'arrosage du jardin, puisqu'en fait, on a deux puits sur la propriété du Jardin Majorelle qui alimentent tous nos besoins en eau pour l'arrosage du jardin. Et puis, vous remarquerez peut-être quelques détails. On arrose, bien sûr, tôt le matin ou en fin de journée, plutôt qu'en plein soleil. Et puis, il y a tout un effort qui a été fait. Tout ce qui tombe dans le jardin est maintenant récolté dans une station de compostage et se voit sous la forme de mulch au pied des bambous, qui retient donc l'humidité au pied de certains sujets qui sont très gourmands en eau, pour éviter une surconsommation de l'eau. Peut-être qu'on va aller vers l'eau jardin, comme ça vous la... Nous sommes donc entre les deux jardins, entre le jardin public dit Jardin Majorelle et un autre jardin qui est celui de la Villa Oasis, qui est la villa que Pierre Berger et Yves Saint Laurent ont rachetée en 1980 de la veuve de Jacques Majorelle, qui lui-même était décédé en 1962 et qui, avec son épouse, avait construit une villa sur ce jardin que l'on va découvrir maintenant et qui est un peu le double du jardin, c'est-à-dire que c'est un autre hectare de jardin, de surface à découvrir. Structure de manière très différente, peu préparée jusqu'à présent pour recevoir un public nombreux. Il y a moins de barrières, les plantes sont à plus limitée proximité, sont un visiteur donc plus fragile peut-être, mais qui donne à voir un jardin d'une résidence, donc celle de Jacques Majorelle. Puis ce même lieu est devenu donc propriété du Saint-Laurent et de Pierre Berger, a été rebaptisé Ville Oasis du nom d'un roman français des années 30. Et donc changement de propriétaire, changement de lieu, mais même lieu et même affectation, c'est-à-dire un jardin de plaisir lié à une résidence particulière, celle de Majorelle, puis celle
Saint-Laurent et Pierre Berger.
Dans Saint-Laurent et Pierre Berger.
Marrakech, pour moi, c'est le paradis. Le ciel est d'un bleu inoubliable. Et quand on voit ces groupes de femmes avec des couleurs inouïes, des roses, des fuchsias, des turquoises, on dirait qu'elles se sont mises ensemble pour faire un tableau. Je veux dire que Marrakech m'a ouvert à la couleur.
Aussi la spécificité de ce jardin et certainement son succès, c'est-à-dire qu'en plus de cet îlot de verdure, on a ces chants d'oiseaux qui accompagnent. On comprend que les artistes se sentent bien ici.
Chants d'oiseaux, c'est beaucoup de batraciens, au printemps notamment, assez assourdissants durant la saison des amours, 5 ou 6 heures le soir notamment, quand la nuit commence à poindre, et puis quelques reptiles, des tortues, enfin toute une animalité qu'il faudrait regarder d'un peu plus près, que parfois le nombre élevé de visiteurs au milieu de journée rend difficile de contempler, mais disons, qui vient un peu plus tôt dans la matinée ou un peu plus tard dans l'après-midi, peut-être entend mieux les oiseaux et voit mieux peut-être non seulement d'autres visiteurs et visiteuses, mais une population animale qui peuple ce jardin. On est donc devant la Villa Oasis, qui est donc cette villa rebaptisée Villa Oasis par Pierre Berger Yves Saint Laurent dans les années 80. Et donc devant nous, ce pavillon, qui est donc un pavillon au bord d'un point d'eau, semble être là depuis toujours, mais en fait est une création contemporaine qui reprend les codes d'architecture sur les matériaux, dans les formes ou dans les décorations de l'architecture traditionnelle marocaine. Pareil pour certains éléments de la villa, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui ont été adaptés d'abord par Jacques Majorelle, puis par Jacques Grange et Bill Willis.
Qui donne des cadres parfaits pour les photos, on voit tous les visiteurs posés devant.
C'est un peu le retour de l'histoire, dans le sens où Majorelle avait imaginé un décor pour sa propre peinture, ce décor devient décor pour la photographie d'un tourisme pluriel, je dirais, et nombreux.
Depuis quand la rue du Jardin Majorelle s'appelle la rue Yves Saint-Laurent ?
Depuis l'ouverture du musée Yves Saint-Laurent en 2017, cette rue a été réaménagée avec des bancs repavés de concert entre la Fondation Jardin Majorelle et la municipalité. Une chose que j'aime bien dire, c'est que moi je connais peu d'exemples d'étrangers qui tombent amoureux d'un pays, en l'occurrence le Maroc. Ils passent une grande partie de leur vie régulièrement à Marrakech, puis à Tanger. Hein. Dans les 20 dernières années de leur vie, ils ont aussi acheté 2 maisons à Tanger. Mais imagine un mécanisme de redistribution post-mortem, pas en France, mais dans le pays d'adoption, en l'occurrence le Maroc.
Peut-être un mot, quand on pense au Jardin Majorelle, on pense à ce bleu très particulier qui recouvre à la fois les murs ou les éléments décoratifs. Vous pouviez peut-être nous en dire un mot ?
Alors ce bleu, il est très présent dans le paysage de Marrakech depuis de nombreuses années, je crois. Très présent dans les pavillons, différentes structures du jardin. Bleu qu'aurait choisi Majorelle après avoir fait une visite dans les villages de l'Atlas et avoir vu l'encadrement, l'embrasure de fenêtres de ce bleu qu'il aurait reporté au conditionnel sur les façades du studio où ils travaillaient.
Mais ce bleu qu'ont donc gardé Yves Saint-Laurent et Pierre Berger après ?
Ils l'ont maintenu tout en ajoutant d'autres couleurs. On est face à des pots en terre cuite qui sont repeints d'un bleu plutôt céruléen. Il y a aussi du jaune et du vert et de l'orange. Ces couleurs ont été choisies par Saint-Laurent pour donner des touches de couleurs dans le jardin, puisqu'en fait, ce jardin, en tout cas la partie publique, c'est pas tellement un jardin de fleurs. C'est un jardin qui est plutôt une variation de bleu, de vert, de gris, que de taches de couleurs rouge, jaune, orange. Il y a bien sûr quelques fleurs ici ou là, mais disons c'est prédominamment un jardin qui se distingue par l'architecture des sujets, qui se tache sur un fond rose de gravier, plutôt que par un contraste verdure et couleurs vives, bleu, jaune, orange ou d'autres couleurs. Et donc, cette tache de couleur sur les pots qu'a choisi Saint-Laurent, c'est peut-être pour rehausser davantage les sujets qui, eux, sont, je répète, dans les tons de vert de gris, vert et certaines même nuances de bleu.
Donc, le jardin a 100 ans, mais vous avez encore beaucoup de projets devant vous, j'ai l'impression.
C'est peut-être la force d'une institution qui est autonome, de pouvoir imaginer un présent et un futur sans trop dépendre de ressources ou d'autorisations. De ressources extérieures à l'institution.
Bien, merci beaucoup pour cette visite.
Merci à vous.
Suite du Grand Tour lundi. Marie Sorbier, où serez-vous ?
Lundi, Arnaud, une toute autre visite nous attend. Nous serons dans l'ossuaire des catacombes de Paris qui commence un chantier de restauration.
Merci Marie, à lundi.